RCF. Bonsoir à toutes et à tous. Ce vendredi 18h10, 19h, on vous accompagne pendant 50 minutes. On ira faire un tour du côté du salon Destination Marne au Capitole de Châlons-en-Champagne en deuxième partie d'émission, où nous rencontrerons également Frédéric Orzekowski, directeur du Cube A3, pour nous donner la feuille de route pour l'année 2024. Nous serons également ce soir, comme tous les vendredis, avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes, qui en alternance avec son auxiliaire, Monseigneur Étienne Véteux, mais c'est bien l'archevêque qui sera au micro de Jean-Pierre Benoît tout à l'heure. Un maire qui nous parle, Michel Claude et l'édile de Tourteron dans les Ardennes. Et puis dans quelques secondes maintenant, on va établir la ligne avec Jacques Cohen, notre chroniqueur d'actualité, pour parler de l'ultra fast fashion et notamment de la marque Shein. Ben justement, on va commencer par là ce soir pour commencer cette émission. Donc le professeur Jacques Cohen est en ligne avec nous. Jacques, bonjour.
Bonjour.
Et vous voulez nous parler d'une marque, on ne sait pas trop comment il faut l'appeler. Est-ce qu'il faut l'appeler Shein? Est-ce qu'il faut l'appeler Shein? Elle s'écrit S-H-E-I-N. Chacun aura sa prononciation. Quoi qu'il en soit, c'est une marque chinoise. Photographie de cette marque, Jacques Cohen.
Eh bien, la marque S-H-E-I-N, Shein, prononce les Français, dont je croyais au début, quand j'ai vu les premières affiches, qu'il s'agissait du mot yiddish Shein, qui veut dire Shein, qui veut dire beau, et dont vous connaissez certainement la musique extraordinaire, By Mir Bizdushain, mais ce n'est pas ça du tout. Il s'agit de fringues. Alors, il s'agit de fringues bas de gamme, mais très bon marché. Et il y a, pour s'opposer à cette firme, une coalition extraordinaire, j'allais dire, de tout ce qui peut être racorni, de jansénistes, d'écologistes prétendant que les fringues contribuent à la pollution mondiale, à croire qu'ils n'ont jamais vu à quoi ressemblait un haut fourneau, par exemple, avec, donc là, ils sortent le bout de l'oreille sur la sobriété, c'est-à-dire qu'on doit abandonner l'idée de changer de fringue. Souvent, comme des tas de choses, il faut passer à souffrir, à la sobriété. Et finalement, leur modèle aussi est chinois. Leur modèle, c'est Mao, c'est-à-dire un uniforme bleu par an, un col Mao par personne, et puis rien d'autre. Et ce n'est pas la peine d'avoir des vêtements qui vont permettre aux gens qui en ont envie de s'afficher avec des aspects variants et chatoyants régulièrement, qui en plus sont bon marché, ce qui là est un véritable scandale, parce que, est embarqué dans la croisade, bien évidemment, l'industrie du prêt-à-porter français, voire européen, qui ne voudrait pas se faire ratatiner par une concurrence qui arrive finalement à vendre moins cher. Et on prend aussi à la rescousse le spectre de l'intelligence artificielle qui permet à ces firmes de balayer ce qui est sur le marché, d'essayer d'anticiper les tendances par les variations de vente qu'ils peuvent repérer et de faire un catalogue permanent de milliers et milliers de références qui permettent aux gens de changer de fringue comme de chemise. Si ça peut leur faire plaisir, je crois que c'est ça le problème, c'est que tous ces gens-là sont opposés au plaisir. Le plaisir, c'est une chose qui ne va pas avec le magnétisme judéo-chrétien qui est maintenant essentiellement porté par les sectes déclinistes écologiques.
Jacques Cohen, si vous me permettez l'expression, on est quelque part dans la fast fashion.
Alors fast, c'est censé être ultra fast. Parce qu'on peut déjà constater que fast, c'est-à-dire un alibi pour dire moins cher, ça existait déjà et qui plus est, ça existe en Europe. Parce qu'une firme comme Zara, qui est une firme espagnole, couvrait déjà ce créneau, et il s'est fait battre sur son propre terrain par ces Chinois, mais les partisans de l'interdiction des Chinois disent qu'avec Zara, il y aura moyen de s'arranger pour qu'ils vendent moins, je ne sais pas, ou qu'ils fassent moins de modèles, enfin des tas de bêtises, parce que, de toute façon, je ne vois pas comment, à moins que les 27 pays de l'Europe le fassent d'un seul coup, on pourrait empêcher ces firmes d'origine chinoise d'implanter un truc en Europe et de vendre illico en profitant du marché unique. Donc c'est aussi typique des éléments, j'allais dire religieux, vous me pardonnerez, qui est de croire que la foi suffit à déplacer les montagnes, et en particulier à déplacer les frontières de l'Europe pour ériger d'un nouveau protectionnisme tricolore qui permettra d'être habillé avec un pantalon de velours et un béret, et peut-être un gilet, mais une fois tous les deux ou trois ans.
Jacques Cohen, c'est vrai que pour aller dans votre sens, puisque je voulais parler de fast fashion, d'ultra fast fashion, je ne sais plus comment il faut dire, finalement on est toujours un petit peu la fast fashion de quelqu'un. On pourrait prendre la marque de Zara en Espagne par exemple.
Zara, effectivement, déjà, qui a fait, s'est essayé à ce genre de choses, mais on peut remonter dans l'autre sens. Je pense que les gens qui vont chez les grands couturiers doivent considérer que l'émergence de prêt-à-porter ou semi-prêt-à-porter, genre Cardin, est déjà une concurrence absolument déloyale de gens qui gâchent le métier en vendant pas cher, et ainsi de suite jusqu'en bas, où on finit à des fringues à 3 euros produites en Chine. Mais la seule chose qu'on puisse reprocher à ces fringues, c'est de savoir si les conditions de production sont conformes au point de vue de la réglementation du travail en Europe, en particulier du travail des enfants, etc. Mais sinon, le fait que des entreprises misant sur une taille gigantesque et une production extrêmement bien gérée au point de vue logistique arrivent à tailler des croupières, voire même des chemises et des costards aux firmes européennes qui avaient visé ce créneau du pas trop cher.
Ça veut dire, Jacques Cohen, que le message que vous faites passer à l'antenne aujourd'hui, c'est de dire finalement, on laisse les gens s'habiller comme ils veulent et avec les moyens qu'ils ont ?
Je pense que tous ces gens font partie de la longue cohorte de ceux qui savent mieux que le peuple ce qui est bon pour lui et qui veulent pourrir la vie des gens pour faire leur bonheur malgré eux, et le bonheur étant défini par ce qu'ils ont derrière la tête, ici le déclinisme austère, et non pas ce à quoi les gens aspirent. Donc ça me paraît une véritable caricature de ce point de vue-là. Le bonheur, il faut aussi considérer que chacun y a droit et qu'il considère pour cela des voies qu'il paraissent à un autre peu utiles. On ne peut pas imposer une voie unique du bonheur obligatoire avec interdiction des autres voies, telles que ces sectes de régression déclinistes veulent le faire.
Alors c'est vrai que les députés ont mis ce sujet sur la table hein, cette semaine. Jacques Cohen, il y avait dans le viseur Shein, il y avait dans le viseur la marque Temu, qui est dans le même sujet mais plus autour des accessoires, etc. Il y a peut-être des chats plus importants à fouetter à l'Assemblée nationale en ce moment que des lois pour à quel prix on achète nos vêtements et de quelle manière ils sont fabriqués.
C'est peut-être effectivement qu'il y a d'autres sujets plus importants en France et sur la planète que d'empêcher les jeunes filles de s'habiller comme il leur plaît en changeant de tenue trois fois par semaine. Surtout quand ça ne les ruine pas.
En tout cas, un grand merci Jacques Cohen de nous avoir éclairé sur Chine et sur la fast fashion. Et puis on vous dit à très bientôt, professeur.
À très bientôt. Et je crois que je mettrai Buy Me a Business Chain en bande son sur mon site.
Avec plaisir pour découvrir un petit extrait sonore comme vous en prenez l'habitude de temps en temps. À bientôt, professeur. Rendez-vous sur le site jhmcohen.com.
À bientôt, mais vous me laissez quelques jours pour mettre les choses à jour.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Jacques, qui a été un peu plus court que d'habitude, c'est du direct. On s'adapte en cette période de carême. On continue nos rencontres aujourd'hui avec le père Claude Soudan, prêtre dans le diocèse de Reims et des Ardennes. Claude Soudan, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous pour répondre à cette question que l'on pose à toutes les religieuses, tous les religieux, tous les prêtres du diocèse de Reims et des Ardennes pendant ce temps du carême. Que représente le carême pour vous, père Claude Soudan ?
C'est une grande question. Hein. C'est d'abord un temps un petit peu à part dans une année. C'est une histoire de 40 jours ou un peu plus. Hein. Et un temps long et qui démarre quand on entre dans le carême. Il y a un moment donné, on a quelques jours du carême et on va entrer dans le carême le mercredi. Et on est parti pour un temps long où on a pris quelques décisions, des résolutions, et on essaye de s'y tenir. Il y a une volonté d'avancer comme ça jusqu'à Pâques. C'est le but du carême, c'est d'entrer dans le mystère de Pâques.
Justement, on aura l'occasion de revenir sur certaines de ces résolutions que vous évoquiez il y a quelques instants. Vous-même, père Claude Soudan, comment vivez-vous ce temps du carême ? On imagine que ce carême que vous vivez en 2024, il est différent de celui de l'an dernier ou de celui que vous viviez il y a déjà quelques années.
Bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup de différences. Il y a eu des périodes où j'étais dans des résolutions un petit peu assez fermes. Aujourd'hui, il y a quelques résolutions. C'est plus un peu des résolutions, se libérer des petites habitudes qui prennent un peu de la place dans notre vie. Et voilà, laisser du temps pour être disponible pour autre chose. Mais oui, ce n'est pas des grandes résolutions. Ainsi, on continue un peu ce qui est important un peu dans notre vie de prêtre, l'aspect de la prière, l'aspect de prendre du temps pour la lecture, faire attention aux personnes. Voilà, mais il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire dans ce carême, là, cette année, en termes de posture. Hein. Non, c'est assez simple.
Ce temps du carême, c'est quelque chose que vous vivez en communauté, avec vos frères prêtres, peut-être, avec aussi les gens que vous rencontrez ?
C'est-à-dire qu'en communauté, c'est tout ce qu'on va essayer de mettre en place en termes de propositions un peu particulières du temps de carême. C'est des temps de formation, des temps de rencontre, des rendez-vous de carême, comme pour les paroisses, à l'intérieur des paroisses ou entre paroisses. Là, on a mis en place sur les paroisses entre Valleyard et le Mont-Saint-Lié un rendez-vous un peu d'attention aux plus pauvres, à l'écoute d'exhortation du pape, la dernière « Loué sois-tu Seigneur ». Par ailleurs, sur d'autres paroisses, on a des interventions qui sont plus de l'ordre théologique, sur l'Eucharistie, sur plus des interventions avec des intervenants extérieurs, voilà, etc. Quoi. Donc c'est intensif en termes de propositions. Et puis en termes de propositions aussi, ce sera le sacrement du pardon qu'on essaye de proposer un peu dans tous les temps forts de l'année, le temps de l'Avent et le temps du Carême. Donc le temps du Carême est un temps privilégié pour renouveler cette proposition. On vient de vivre 5 jours à Ars autour du sacrement du pardon. Voilà la grande question du sacrement du pardon. J'aime bien la phrase de l'évêque dans la lettre pastorale, de mettre à jour le péché, c'est-à-dire qu'il y a une grosse conscience qu'on a à mettre à jour ce qui embrouille nos vies et ce qui les empêche de s'épanouir, quoi. Et c'est dans la mesure où on peut repérer un peu ce qui embrouille nos vies qu'on va pouvoir avancer. Donc ça passe aussi par cette tradition d'une demande de pardon, de réconciliation, les différents mots qu'on peut mettre. Alors ça passe par le sacrement, ça passe aussi par une cérémonie pénitentielle. On peut proposer différentes manières d'être réveillé, ça passe par nos liturgies du dimanche, hein, d'être réveillé à cet appel à se convertir.
Un grand merci, Père Claude Soudan, de nous avoir éclairé sur la façon dont vous vivez le carême et on vous dit à très bientôt sur RCF.
Merci.
Le 18-19 sur RCF.
Et il est l'heure de retrouver un maire qui nous parle. Direction les Ardennes, Jean-Pierre, si j'ai bien tout compris, avec votre maire qui vous parle aujourd'hui. Qui est en ligne avec vous ce vendredi ?
Et notre maire aujourd'hui est Michel Claude. Il est le maire de Tourteron, dans le département des Ardennes. Michel Claude, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous. Alors Tourteron, bon, moi je connais parce que je vois toujours souvent des pommes de Tourteron. C'est dans les Ardennes, hein, c'est connu, mais il n'y a pas sans doute que ça. Alors monsieur le maire, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre commune de Tourteron? Combien d'habitants aujourd'hui à Tourteron?
Le dernier recensement date de, c'est tout récent, de janvier 2023. On était 179. Mais depuis, je pense que plusieurs familles sont venues s'installer. On doit frôler les 200, je pense.
Alors ça veut dire quand même, Michel Claude, que nous avons aujourd'hui une population nouvelle qui arrive dans votre village. Est-ce que c'est un effet Covid, on pourrait dire?
Non, sincèrement, je pense pas. Non, non. On a eu un peu de décès, donc des maisons se sont libérées, ça a été vendu. Des jeunes, c'est beaucoup de jeunes qui viennent se réinstaller. Des personnes entre 20 et 30 ans, des couples entre 20 et 30 ans avec des enfants. Ce qui est très bien pour notre école, évidemment.
Évidemment. Et ça veut dire aussi qu'il y a sans doute des personnes, et en particulier des jeunes, vous le signalez, qui aiment bien être à la campagne en sachant que Tourteron, c'est combien de kilomètres pour le bourg le plus proche?
Alors donc, pour faire rapide, Attigny est à 10 km, Le oui. Chêne 10 km, Charleville 30, Rethel 20 et Reims 60, une soixantaine pour Reims.
On trouve quand même des choses à Attigny, on n'est pas obligé d'aller très très loin, donc on a quand même pas mal de facilités. Alors vous-même, Michel Claude, vous êtes maire depuis combien de temps à Tourteron?
J'ai été élu en juillet 2020. 2020, suite au Covid, ça avait été décalé, les élections, donc juillet 2020, donc jusqu'à mars 2026, et c'est mon premier mandat.
Mais avant, vous étiez peut-être déjà au conseil municipal?
Du tout.
Ah, vous êtes arrivé comme ça. Ah oui, alors, ah oui. Alors Tourteron, la population, vos 179 habitants, il y a beaucoup d'agriculteurs, il y a des retraités, il y a les jeunes dont vous parlez. Quelle est la population aujourd'hui de Tourteron?
Moi, je suis arrivé au village en août 86. Il y avait 7 fermes à l'époque. Aujourd'hui, il n'y en reste plus qu'un. Oh. Par contre, tous les terres sont cultivées, bien évidemment. Ce sont les paysans qui viennent de loin, même de la Marne, pour cultiver par chez nous. Mais oui, il reste seulement un paysan.
Oui, ça, on ne s'imagine pas quand on sait quelque chose de nouveau depuis quelques années seulement. C'est que lorsqu'on est dans un village, on a des terres cultivées avec des paysans, comme on dit, qui viennent de loin
qui
pour cultiver. C'est incroyable.
C'est incroyable, c'est vrai.
Est-ce que vous avez dans votre commune, dans votre beau village, Michel Claude, quelques projets? Est-ce qu'on va refaire la voirie? Est-ce que vous allez vous occuper des fleurs? Est-ce que voilà l'embellissement, certainement des choses?
On a un gros dossier en cours, c'est la réfection de l'église. Par un gommage, c'est le karcher en beaucoup moins agressif pour les pierres. Le gommage, c'est une grosse entreprise de Reims qui va venir nous faire ça pour un montant de 80 000 euros.
Ça coûte cher, hein?
80 000 euros, subventionnés quand même à 80%. Hein. Entre oui. la Comcom, le décret de prêt ardennaise, le département, l'État, on n'aurait que 20% de notre charge.
Alors c'est vrai que, certes, les églises sont moins utilisées aujourd'hui, mais tout de même, dans un village, ça fait partie du patrimoine. Et il y a encore beaucoup de personnes qui se rappellent des obsèques de l'un, de la communion d'un autre, et c'est qui, ça. Pour telle ou telle cérémonie, veulent revenir à Tourteron, revenir à leurs racines. Ça, c'est très important pour le village.
C'est juste, puis notre église, c'est une belle église, l'église est classée. Est classé tout comme trois croix de chemin. On a trois croix de chemin qui sont classées, donc on fait pas n'importe quoi dans le village.
Ça veut dire aussi que vous avez autour de vous, au conseil municipal, une petite équipe qui vous aide. En particulier, il y a beaucoup de gens qui sont sensibles à l'embellissement. Est-ce que vous êtes candidat pour une fleur, une deuxième fleur? Est-ce que vous êtes dans cette catégorie de concours? Non, pas forcément.
On l'a eu il y a une paire d'années avant moi. Donc, demandeur avant moi, on avait obtenu une fleur. Et cette année, je crois qu'on en parle sérieusement. Je crois qu'on va refleurir un peu le village. Ça serait plus accueillant, bien évidemment.
Est-ce que le maire aujourd'hui, on les dit souvent avec les agriculteurs en ce moment, qui manifestent, même si en ce moment c'est le salon de l'agriculture, des gens qui se plaignent un peu de dire, bon, ben, il y a quand même beaucoup de formalités administratives pour le maire d'aujourd'hui.
C'est un travail quotidien. Mais j'ai la chance d'avoir une super secrétaire de mairie. Elle fait un travail époustouflant. Heureusement qu'elle est sans cette secrétaire-là, parce que ce ne serait pas possible. Hein. On dormirait à la mairie. Hein.
Parce que finalement, vous, c'est peut-être indiscret, mais vous êtes encore en activité, vous, Michel Claude.
Non. Je suis pensionné, comme disent nos amis belges.
Ah oui, parce que on a remarqué, les auditrices et les auditeurs de RCF le remarquent bien évidemment, lorsque nous sommes avec eux, avec les maires, il y a quand même une distinction entre les maires qui ont une activité professionnelle et qui ont du mal à travailler comme maire, parce que pour prendre des rendez-vous de réunion, par exemple, en journée, quelqu'un qui a une activité professionnelle, il est quand même un peu coincé.
Ça doit être super compliqué, oui, tout à fait. Je vois pas comment j'aurais pu cumuler les deux.
Et avec la communauté de communes, c'est vrai que la communauté de communes a des responsabilités nouvelles, mais le maire, il reste, on le dit souvent dans cette émission, il reste quand même le patron dans sa commune.
Dès qu'il arrive quelque chose, la première personne qu'on cherche à contacter, c'est le maire. Quoi qu'il arrive, des bonnes ou des mauvaises choses, c'est le maire.
Ça veut dire que dans le maillage, on parle toujours des ministres, des députés, des sénateurs, bon, qui jouent leur rôle et qui jouent leur mission. Mais le maire dans une commune, c'est celui qu'on voit, qu'on contacte. Vous connaissez tout le monde, vous-même, à Tourteron. Et vous-même, vous étiez habitant, vous êtes né à Tourteron, enfin vous êtes d'origine?
Ah non. Mon père travaillait à la SNCF tout comme moi. Donc on a fait la Meuse, on a fait la Meurthe et la Moselle, la Haute-Marne. On est arrivé dans les Ardennes en 71.
Mais vous avez été adopté finalement.
Oui,
par les Ardennais. Parce que bon, les Ardennais, c'est un tempérament, c'est une façon de faire. Une fois qu'on fait partie un petit peu de la famille des Ardennaises et des Ardennais, on fait partie, j'allais dire, de la famille.
C'est vrai. C'est vrai, je me souviens quand j'étais contrôleur SNCF, TGV, et on allait à Valence dans le sud, donc on leur parlait des Ardennes, ils avaient presque peur. Hein. Ils disaient, mon pauvre, et ils auraient pleuré en nous regardant, hein, en se disant, c'est quoi ce département-là?
Ça me fait penser à un maire qui est d'une commune voisine de la vôtre, qui nous disait qu'un jour, une journaliste du Monde était venue faire un reportage sur une commune ardennaise. Elle était habillée d'ailleurs avec un double manteau de fourrure, croyant arriver en Sibérie. Et, elle regardait les Ardennais comme des êtres un peu sauvages. Et ça fait les délices de Yanni Huro, hein, dans la Bequette de l'Ardennais.
Oui,
mais pour conclure, puisqu'on arrive au terme de notre émission, est-ce qu'on peut dire, Michel Claude, vous qui êtes maire de Tourteron dans les Ardennes avec ces fameuses pommes, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un maire heureux, finalement?
Oui, sincèrement. Ça me passionne comme tâche, mais c'est vrai, ça me plaît. J'ai la chance d'avoir quand même des administrés sensibles à ce qu'on fait. Je pense qu'ils s'en rendent compte. C'est un métier de tous les jours quand même. Hein,
et puis ils doivent se rendre compte eux-mêmes de l'investissement que ça représente et de la passion que vous y mettez. En tout cas,
c'est ça.
En tout cas, merci Michel Claude d'avoir été avec nous, maire de Tourteron, là où il y a de très très bonnes pommes. Et on aura l'occasion bien sûr d'en reparler. Et puis sans doute que dans quelques semaines, on aura l'occasion de vous retrouver avant la fin de l'année. Ça donnera l'occasion de redonner un petit coup de projecteur sur Tourteron et le département des Ardennes.
Merci à tous les deux, Jean-Pierre. On vous retrouve en deuxième partie d'émission juste après le journal régional. Les titres de ce vendredi 15 mars, à la demande du président de région Franck Leroy, le Césaire Grand Est expose des pistes de réflexion pour redynamiser les campagnes découvertes. L'association sportive de l'Institut catholique de Paris Campus de Reims organise un événement convivial. Ce samedi, des matchs de football sont organisés entre étudiants et anciens joueurs professionnels de l'Estac et du Stade de Reims. L'idée est aussi d'échanger sur le parcours de ces athlètes, aujourd'hui reconvertis dans d'autres domaines d'activité.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Le Césaire Grand Est contribue au pacte des ruralités voulu par la région. Le Conseil économique, social et environnemental régional entend notamment se faire entendre sur les mobilités, les formations, la lutte contre les déserts médicaux ou encore le développement du numérique. Dorothée Duib, présidente de la commission territoire du Césaire Grand Est, esquisse quelques axes stratégiques.
Un vrai fil conducteur dans les travaux menés par le Césaire, tout d'abord pour réussir ces transitions, que ce soit des transitions justes et qu'elles soient déclinées de manière équitable sur le territoire. Et ces trois fils rouges, c'est tout d'abord des politiques qui renforcent l'attractivité des territoires. Ensuite, c'est surtout aussi des politiques qui essaient d'enrayer la fabrique de la précarité, de la pauvreté, mais aussi de toute forme de discrimination sur le territoire. Et enfin, une politique qui soutienne et qui favorise les politiques jeunesse. Trois priorités, en fait, que le Césaire s'est fixées tout au long de ses travaux. Si on veut rétablir l'équité sur le territoire avec les moyens qui sont alloués à l'ensemble des territoires, c'est une chose. Mais ensuite, il faut aussi donner les moyens aux acteurs, aux citoyens, de se les approprier et de pouvoir vivre dans ces territoires de manière équitable sur tout le territoire. C'est pas seulement donner les moyens, mais c'est aussi cet accompagnement qui est important pour que chacun puisse s'approprier les moyens qui leur sont donnés.
Monter un dossier pour obtenir des fonds européens n'est pas toujours facile pour une association ou une petite structure, d'où la nécessité, selon le Césaire, d'un accompagnement humain au plus proche des territoires ruraux.
Je pense que d'ici quelques mois déjà, on va commencer les travaux d'affiner ce travail et de voir quels sont les points communs entre tout ce qui est ressorti de ces axes stratégiques, puisqu'il y a des préconisations. Je vous parlais de l'accompagnement, une demande forte sur l'ingénierie, donc l'accompagnement effectivement des projets, des demandes pour bénéficier des aides aussi sur le terrain. Ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup aussi de ce travail. Après, ça sera d'aller plus loin dans le détail, comment on peut aller plus loin et accompagner la région aussi dans ce pacte des ruralités. C'est vraiment une association entre ce qui est demandé par le régional, travailler, qu'on y soit associé et qu'on donne vraiment le regard de la société civile en action et organisée via le Césaire.
Des propos recueillis par Christopher Fausten de la rédaction de RCF Cœur de Champagne, le Césaire Grand Est présentera la nouvelle édition de son prix des solidarités rurales le 4 avril à Strasbourg. La ministre déléguée chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation était dans la Marne ce vendredi. Arrivée en milieu de matinée, elle a d'abord visité l'Intermarché de Champigny avant de déjeuner avec des élus du territoire et des dirigeants de PME. Cet après-midi, Olivia Grégoire s'est rendue au Salon de l'Habitat et des Métiers d'Art au Capitole à Châlons-en-Champagne, où elle a échangé avec les exposants. On ira nous-mêmes y faire un tour tout à l'heure avec Christopher Fausten. L'association sportive de l'Institut catholique de Paris Campus de Reims organise son événement AS Fusion. C'est demain samedi de 13h à 18h à l'Inside Sport, zone Farman à Reims. Les étudiants seront mélangés à d'anciens joueurs de football professionnels passés par les clubs de la région tels que l'emblématique capitaine troyen Benjamin Nivet, Frédéric Danjou et bien d'autres pour disputer des matchs de foot en salle avant de partager un moment convivial avec le public présent qui peut venir en entrée libre. L'idée est de comprendre quel chemin prennent les footballeurs professionnels après leur carrière. Martin Revel, membre de l'ASICP, au micro de RCF France Ardennes.
L'AS Fusion, c'est tout simplement un rendez-vous sportif, premièrement, où on pourra assister à des échanges avec une complexité sportive à l'intérieur, donc d'un tournoi de futsal avec Benjamin Nivet, par exemple, Frédéric Danjou, Alexandre Givenin, si ces noms ne vous disent pas particulièrement quelque chose, ce sont d'anciens joueurs professionnels qui ont joué à Troyes, mais on retrouvera aussi d'anciens joueurs professionnels de Reims. Donc pour l'échelle du campus, pour vous donner un ordre d'idée, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel pour un campus qui vient de s'ouvrir il y a 3 ans. Et donc c'est un événement très intéressant. Et d'autre part, ça sera aussi l'occasion de discuter avec des personnes qui ont subi ou qui ont réussi justement à se reconvertir dans d'autres domaines. Et c'est un moment d'échange pour ceux qui essayent de trouver une orientation plus tard dans ce qu'ils veulent faire. Donc c'est toujours très enrichissant d'avoir d'autres expériences. Là, ce que nous souhaitons, c'est justement que cet événement soit connu et qu'il y ait des supporters, etc. Que ce soit un moment d'échange et de joie, parce que c'est important quand même dans un campus, peut-être pas l'image comme aux USA, mais quelque chose quand même d'assez intéressant pour tout le monde. Et ensuite, il y aura des échanges à la fin des matchs ou pendant les pauses, etc. Et on pourra discuter avec tout le monde, etc. Donc c'est un événement de joie, de fête aussi à l'ICP, et c'est surtout ça qui nous intéresse.
Rendez-vous à l'Inside Sport Zone Farman à Reims de 13h à 18h ce samedi, entrée libre. Les autres rendez-vous sportifs du week-end, c'est avec les principaux clubs de sport collectif de la région. Il y aura d'abord du basket avec de la Pro B ce soir à 20h. Châlons-Reims se déplace sur le parquet de La Rochelle pour la 24e journée. C'est aussi du basket qui fermera l'agenda dimanche à 16h15 avec les Flammes Carolo qui reçoivent Montpellier pour la 19e journée de Ligue Féminine. Ce soir, Chaumont reçoit Montpellier pour la 25e journée de Ligue A. On parle là de volley, vous l'avez bien compris. Enfin, 3 rendez-vous football sont à noter dans l'agenda. Samedi à 14h30, Reims reçoit Lille en D1 Arkema pour le compte de la 19e journée. Samedi à 19h, Troyes se déplace sur la pelouse de Quevilly-Rouen en Ligue 2. On jouera là la 29e journée. Dimanche à 15h en Ligue 1, le Stade de Reims reçoit Metz pour la 26e journée. Et puis, un 4e rendez-vous football, pas comme les autres. Ce dimanche, le club sportif Sedan-Ardennes, qui évolue, vous le savez malheureusement, en Régional 3 cette saison, se déplace sur la pelouse de l'US Étain. Le CSSA, leader, affronte le 2e. En cas de succès, les Ardennais pourraient faire un très grand pas en avant dans l'opération montée en Régional 2. Avant de refermer ce journal, place à la météo. Vous avez découvert sa voix cette semaine. Elle est fidèle au poste ce vendredi soir. C'est notre stagiaire à la rédaction, Marion Yernard. Bonsoir Marion, que va-t-il se passer au-dessus de nos têtes ce week-end ?
Bonsoir Alexis, un temps très nuageux est prévu ce samedi 16 mars sur tout le territoire avec des températures un peu plus fraîches que ces derniers jours avec 8 degrés le matin et 13 dans l'après-midi. Cependant, les Ardennes pourront profiter de quelques éclaircies le matin. Nous fêterons les bénédictes ce samedi. Passons au dimanche 17 mars avec un temps plutôt triste qui s'annonce sur tout le territoire avec beaucoup de nuages et de la pluie au niveau des Ardennes. Au niveau température, on tournera autour des 6 degrés le matin et autour des 14 pour l'après-midi. Pensez à vous habiller en vert dimanche, en effet, on fêtera la Saint-Patrick. Bonne soirée à toutes et à tous.
Merci Marion, on te souhaite un bon week-end. Ainsi se referme ce journal, le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Chalon. Charleville-Mézières.
Chose promise, chose due. Après ce journal, on prend la direction du Capitole de Chalon en Champagne où Christopher Fausten est sur place. Le printemps, symbole de renouveau, de transformation, de nouveau départ quelque part. Tout cela s'invite justement au Capitole. Bonsoir Christopher.
Bonsoir Alexis, bonsoir à tous. Et oui, 4 salons en un seul lieu, le Capitole de Chalon en Champagne tout au long du week-end. Cet événement se nomme les salons de printemps. Auparavant, s'appelait la foire de printemps, mais pour cette année, ce sera les salons de printemps inaugurés cet après-midi vers 14h30 en présence d'Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des entreprises du tourisme et de la consommation.
On le disait, Christopher, 4 salons en un seul lieu.
Tout à fait Alexis. Pendant 4 jours, les visiteurs sont invités à découvrir plusieurs salons. Le salon de l'habitat et des métiers d'art avec près de 200 exposants. On a également le salon des véhicules d'occasion avec environ 500 modèles d'occasion exposés. Le campus senior qui sera axé cette année sur le cancer et les relations intergénérationnelles. Et enfin, le salon Destination Marne qui permet aux visiteurs de faire le plein de nouvelles idées d'activités et de sorties en réunissant sur un même lieu, 120 prestataires touristiques.
Et une bonne nouvelle pour les auditeurs de RCF, puisque cet événement sera à vivre sur les ondes notamment de RCF Cœur de Champagne ce samedi.
Et oui, l'équipe RCF Cœur de Champagne sera présente au Salon Destination Marne en partenariat avec l'Agence de développement touristique de la Marne demain à travers un plateau en direct de 11h à 13h et de 17h à 18h. Un événement à vivre sur les ondes FM de RCF Cœur de Champagne et les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne.
Avant de nous quitter ce soir, Christopher, peut-être un bilan de cette première journée. Comment ça s'est passé ?
Eh bien écoutez, cette première journée a démarré en douceur, on peut le dire. On est encore vendredi, on n'est pas encore le week-end, mais on attend du beau monde ce week-end, et en tout cas jusqu'à lundi soir au Capitole de Châlons-Champagne, même si le temps s'annonce mitigé en Champagne-Ardennes.
Merci Christopher, depuis le Capitole de Châlons-Champagne.
Merci Alexis, très bon week-end.
Très belle fin de journée, très bon week-end. Nos auditeurs peuvent s'y rendre nombreux ou sinon, vous l'avez dit, ils vous retrouvent en cours de journée demain sur les ondes de RCF Cœur de Champagne.
Le 18-19 sur RCF.
Pour la deuxième fois cette semaine dans le magazine régional, nous retrouvons Mgr Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes et président de la Conférence des évêques de France. Il était au micro de Jean-Pierre Benoît ce matin.
Mgr Éric de Moulin-Beaufort, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Vous êtes en direct avec nous, comme tous les 15 jours, le vendredi, en tout cas merci beaucoup. Vous êtes archevêque, bien sûr, de Reims, tout le monde vous connaît ici, mais aussi président de la Conférence des évêques et à ce titre, on aura l'occasion également de vous interroger. Nous sommes en plein carême, Monseigneur, il y a un certain nombre de rendez-vous dans les jours prochains. On avait évoqué il y a quelque temps les catéchumènes.
Ben voilà, il faut continuer, hein, il faut continuer à les porter dans notre prière, mais aussi dans notre effort de conversion, de changement intérieur à tous. Nous avons passé la mi-carême, mais voilà, il faut bien essayer de bien vivre les deux semaines à peu près qui nous restent, de manière à être vraiment en communion avec le Christ pendant la semaine sainte et de pouvoir connaître la grande joie de Pâques. Alors ce dimanche, on célébrera les troisièmes scrutins sur pour les catéchumènes. Il y a souvent dans beaucoup d'endroits des célébrations du pardon et j'invite vraiment tous les auditeurs et toutes les auditrices à profiter du sacrement du pardon. Il s'agit d'enlever la poussière qui nous couvre, ou bien de rétablir un peu notre relation à Dieu, de manière à encore une fois, à pouvoir vivre pleinement la joie pascale et puis essayer d'en rayonner pendant tout le temps pascal.
Et d'ailleurs, on vous retrouve ce soir à 20h à la Maison Notre-Dame pour une conférence le vendredi, qu'on retrouve également sur le YouTube du diocèse de Reims et des Ardennes. Et nous, on retrouve cette conférence, vous le savez, le mardi à partir de 19h30.
Ce sera l'avant-dernière de ces conférences. Le thème, c'est « Vous serez mes témoins ». Dans le lien entre Jésus et l'Église, je vais essayer de réfléchir à ce que c'est qu'être témoin du Christ, et en particulier dans le monde tel qu'il est. Ça sera la dernière en direct, puisque celle d'après, je l'ai préenregistrée, puisque je serai dans le train de retour de Lourdes. Mais ce vendredi, je serai à la Maison Notre-Dame, comme chaque fois.
Alors, on aura l'occasion, bien sûr, de retrouver sur cet agenda avec Lourdes. Mais l'actualité a été marquée ces derniers jours. On vient d'entendre parler de Gaza. On peut peut-être y revenir. En tant que président de la Conférence des évêques, avec les autres religions, vous avez fait un communiqué sur cette question.
En réalité, nous avons eu la semaine dernière une réunion avec le président de la Fédération protestante de France, avec le métropolite Démétrios qui préside l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Et nous avons ensemble effectivement fait un communiqué pour appeler au cessez-le-feu et à la libération des otages à Gaza. En tout cas, ce que je voudrais, c'est que vous gardez cette intention très, très fortement présente au cœur. Dans notre prière, nous ne pouvons pas, les uns les autres, c'est pas nous qui allons arrêter la guerre là-bas, mais il ne faut pas oublier ce qui se passe en Terre Sainte. On s'habitue à entendre voilà, qu'il y a eu 20 morts à Gaza, qu'il y a eu ceci, cela. Mais tout ça, ce sont des choses effrayantes. Et il est toujours dramatique que dans cette terre d'Israël et de la Palestine, voilà, il y ait la guerre, il y ait une situation d'injustice, il y ait tant de violence. Alors la contribution que nous pouvons tous apporter, c'est de ne pas nous y habituer et de ne pas nous y résigner et d'intercéder pour que se lèvent des artisans de paix, parce qu'il faudra des hommes et des femmes pour construire la paix un jour. Et il y aura beaucoup de transformation des esprits et des cœurs à vivre.
Il y a un peu plus de 8 jours, c'était dimanche dernier, le président de la République, dans un entretien à Libération et La Croix, a annoncé qu'il y aurait une proposition de loi déposée sur la fin de vie. Il a parlé de loi de fraternité. Il n'avait pas hésité, d'ailleurs, en tant que président de la conférence, de dire que c'est une tromperie, parce que là, il faut vous expliquer, Monseigneur. Sur le champ d'expression.
C'était pas il y a 8 jours, c'était dimanche dernier, il y a même pas 5 jours. Oui, ce que j'ai qualifié de tromperie, c'est d'approprier le terme de fraternité à cette loi. On se joue des mots, c'est toujours commode de mettre une belle étiquette sur tous les flacons. L'ambiguïté que j'ai dénoncée, c'est d'abord que, jusqu'à maintenant, on nous a toujours présenté, aussi bien d'ailleurs le président de la République que la ministre de la Santé, en premier, une grande opération pour développer les soins palliatifs et créer une culture des soins d'accompagnement ou des soins palliatifs dans notre pays dès le début de la formation médicale. Et puis, dans certains cas très limités, une exception pour faire face à des cas difficiles. Et là, dans l'entretien du président de la République, l'ordre est tout à fait inversé. On présente une exception qui prend une telle place qu'elle finit, on se demande si elle va vraiment rester une exception. On peut s'en inquiéter en tout cas. Et puis, des soins palliatifs qui viendront comme on pourra, au fil de l'eau et avec des promesses qui malheureusement sont des promesses qu'on fait depuis 20 ans. Parce que sur ce sujet des soins palliatifs, notre pays a pris des engagements très fermes il y a plus de 20 ans et que malheureusement, nous n'avançons pas. Et même, on a plutôt régressé ces tout derniers mois. Puisque des endroits où il y avait des services de soins palliatifs ont vu leurs moyens humains et financiers diminuer. Donc c'est là qu'est l'ambiguïté. Et jusqu'à maintenant, la fraternité, quand quelqu'un veut se suicider, c'est de l'aider à ne pas se suicider, c'est d'essayer de lui donner des raisons de vivre, c'est de l'accompagner jusqu'au bout. Et là, on inverserait complètement l'ordre. En donnant l'impression que le sommet de la fraternité, ça serait de regarder quelqu'un se donner la mort ou bien de l'aider à le faire. Donc là, il y a un retournement vraiment extrêmement fort. Et ma grande inquiétude, mais qui n'est pas que la mienne, qui est celle de beaucoup de gens, croyants ou pas, beaucoup de soignants, c'est que tout notre système de santé se trouve transformé en réalité. Parce que la loi ne traite pas que quelques cas singuliers. La loi, elle a une généralité qui finit par s'imposer. Et toutes les restrictions que l'on met sont toutes faites, on le sait bien, pour sauter les unes après les autres. Il suffit de voir ce qui se vit dans les pays voisins.
Oui, parce que l'argument, c'est de dire, c'est très encadré, ne vous en faites pas, c'est des cas exceptionnels. Mais on sait qu'à chaque fois, les digues sautent.
Les digues sautent toujours parce qu'on trouve toujours dans la réalité, dans la vraie vie, des cas qui sont à cheval sur ces zones. Parce qu'il y a aussi des gens très déterminés aussi à les faire sauter. Je pense que la vraie fraternité consiste à nous donner les moyens d'accompagner les gens, et en particulier, notamment, de soutenir les aidants. Il y a deux champs d'action nécessaires, c'est continuer la recherche sur les douleurs réfractaires, et un certain nombre de médecins, quand même bien impliqués dans le sujet, disent que si on avait les moyens, les douleurs réfractaires, on les limite énormément. Et d'autre part, il faut soutenir les aidants. Alors, il y a eu quelques progrès faits, mais voilà, tous les proches qui ont à accompagner une personne très gravement malade, incurable, etc. Là, il y a sûrement un effort de fraternité pour le coup à faire, en les soutenant, en les aidant. Et ça passe par la loi, mais ça passe aussi par notre comportement à tous. Et c'est là aussi un sujet d'inquiétude, c'est que ne nous défaussons pas sur la loi et sur l'organisation d'ailleurs de l'hôpital, de cet effort de soins mutuels, d'attention les uns aux autres, d'encouragement que nous devons nous donner. Il y a des gens qui le vivent très courageusement. Dans les hôpitaux, on voit des familles qui viennent visiter des personnes avec beaucoup de persévérance. On voit des proches, des amis qui aussi sont d'une fidélité impressionnante. Il faut que ça doit être la culture de base de notre pays.
On aura l'occasion, Monseigneur, si vous l'acceptez, de faire avec vous une émission spéciale un petit peu plus longue. On va vous laisser aller à l'Assemblée de Lourdes. Hein. Ça sera tout prochainement.
Elle commence mardi prochain, voilà, comme tous les printemps.
Coup de projecteur aussi en quelques secondes sur Jubilaté. C'est un rendez-vous ce week-end important.
Oui, c'est formidable. Nous réunissons donc les jeunes collégiens de 3e et lycéens. Et c'est un moment formidable. Ils sont presque 300 cette année. Donc c'est très bien, ça se passe au lycée Saint-Joseph. Je ne sais pas s'il est encore possible de s'inscrire si quelqu'un ne l'était pas. Et c'est un week-end formidable avec un titre, un corps sain dans un esprit sain, et sain écrit S-A-I-N et S-I-N-T, les deux fois. Voilà, parce que nous préparons les Jeux Olympiques et c'est une belle thématique que le sport pour, et la spiritualité.
Merci Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, très bonne journée.
Merci,
et à très très bientôt,
merci
sur RCF.
À toutes et à tous.
À très bientôt.
Merci Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, merci Jean-Pierre.
À Reims,
Châlons, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Il nous reste une petite dizaine de minutes à passer ensemble ce vendredi soir. Trois émotions. La nouvelle équipe à la tête du Cube depuis le 1er janvier a présenté ses projets. Nouvelle société, nouvelle équipe, nouvelle identité. Les ambitions sont nombreuses. Frédéric Orzechowski, directeur du Cube, nous présente sa feuille de route pour 2024 avec Christopher.
Bonjour Frédéric Orzechowski.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du Cube à Troyes. Merci d'avoir accepté notre invitation à distance sur RCF Cœur de Champagne pour nous présenter cette société Troyes Émotions qui gère le Cube de Troyes depuis le 1er janvier 2024 avec de beaux projets, de beaux objectifs. Mais dans un premier temps, est-ce qu'on peut présenter à nos auditeurs champenois ce que c'est que le Cube à Troyes ?
Le Cube à Troyes, c'est un site complet qui comprend une salle de spectacle qui peut accueillir jusqu'à 6000 personnes debout. C'est-à-dire, pour rappel, c'est la capacité des premiers zéniths en France. C'est pas rien. Et d'un parc des expositions qui est composé de trois pavillons qui font environ 1500 mètres chacun, 1500 mètres carrés, soit à peu près 4500 mètres carrés. Voilà.
Donc on peut dire que c'est un lieu incontournable pour le département de l'Aube à travers de gros événements, on peut le dire.
Oui, on peut tout à fait le dire, sans aucune prétention. Les fêtes parlent pour eux, c'est la plus grosse salle de spectacle, par exemple, du département.
Qui a été créé depuis combien de temps, ce Cube à Troyes ?
Alors, le Cube a ouvert en 2009, la salle de spectacle a ouvert en 2009, le parc des expositions est plus ancien. Puisque se sont succédé différentes constructions, les Troyens qui ont mon âge peuvent dire qu'ils y ont connu la patinoire. Ouais. Voilà. Et en fait, le parc des expositions a subi différentes modifications et un rajeunissement dans les années 90.
Et depuis le 1er janvier 2024, une nouvelle société, une nouvelle équipe, une nouvelle identité. On peut dire que les ambitions sont nombreuses, on en parlera dans un court instant. Mais parlons dans un premier temps de cette société qui a repris le Cube à Troyes depuis le 1er janvier 2024. Cette société qui se nomme Troyes Émotions.
Tout à fait, elle se nomme Troyes Émotions et elle s'écrit Troyes comme la ville et émotions avec un S à la fin parce qu'on espère en donner plusieurs des émotions. Cette société est une société composée uniquement de Troyens et d'Aubois, soit natifs, soit d'adoption,
oui.
Puisque l'équipe aujourd'hui est composée de 8 personnes. Voilà, la majorité des personnes qui travaillent au sein de cette entité, ont fait leurs armes sur le territoire, connaissent le territoire, et mis à part des pièces rapportées comme Delphine, l'attachée de communication, qui elle est bretonne, et pour ma part, moi qui ne suis au bois et troyen que depuis 17 ans, voilà, on peut dire que tout le reste de l'équipe est 100% auboise et troyenne.
Qui s'est installé depuis le 1er janvier 2024 pour gérer le Cube à Troyes, on le disait, salle de spectacle et parc des expositions, une nouvelle équipe, nouvelle identité, tout est en train de se mettre en place. On peut dire que depuis le 1er janvier, vous êtes en plein développement, en pleine construction, on peut le dire.
Alors c'est tout à fait ça, nous sommes en pleine construction, en tout cas nous reprenons le fil de nos prédécesseurs quant à une partie de la programmation sur laquelle nous nous sommes engagés, au sens où des sociétés de production avaient programmé, c'était à peu près 8 événements, alors tout confondu, j'entends concerts, spectacles, hein, Mesmer en tant qu'illusionniste par exemple, et puis nous avons depuis, pour l'année 2024, signé à peu près 8 à 10, tout n'est pas finalisé, mais 8 à 10 concerts supplémentaires, avec entre autres le retour des Nuits de Champagne au Cube, sur lequel, c'est vraiment un dossier sur lequel on travaille et en pleine collaboration avec la direction des Nuits de Champagne. On a à cœur d'y faire non pas un seul et unique concert, mais plutôt d'autres concerts supplémentaires, donc d'étoffer l'offre des Nuits de Champagne. Nous travaillons dans différentes directions et sur différents axes, et en pleine construction, parce qu'en effet, nous redéfinissons, et non pas nous réinventons le métier, mais nous redéfinissons les axes de développement du site. Voilà. Et entre autres, au travers de l'accueil de spectacles et potentiellement de résidences. En tout cas, on va essayer de tracer ce sillon. Voilà.
Frédéric Orzechowski avec nous aujourd'hui en ligne sur RCF pour nous parler du Cube à Troyes, salle de spectacle, mais aussi parc des expositions. Vous avez évoqué il y a quelques minutes le côté spectacle à plusieurs reprises, et on peut le dire, le Cube veut se placer sur la carte des grandes tournées de spectacle. Quand on a des communes dans Champagne-Ardenne telles qu'Épernay avec le Millésium, telles que Châlons-Champagne avec le Capitole, ou encore Reims avec l'Arena, il n'y a pas de concurrence, on peut dire, entre les différentes salles de spectacle qu'on peut retrouver en Champagne-Ardenne.
Alors, pas à proprement parler, et pas où... je dirais pas une concurrence comme le reste du monde économique, et encore moins tout ce qui pourrait être la notion de commerce. Il y a en effet forcément ce qu'on va appeler un fascine, puisque on va se retrouver non loin les uns des autres, et avec des programmations qui peuvent être identiques.
Oui.
Mais ça, c'est la volonté des artistes. C'est-à-dire que quand un artiste a cœur de sillonner la France, eh bien oui, il va se déplacer de 80 km à 100 km, un peu plus loin que la précédente salle. Il est à noter que, vous parliez de nos confrères, ben c'est des salles qui, alors pas toutes, hein, mais qui, on ne va pas parler de l'Arena en elle-même, qui est un peu plus grande, mais les capacités d'accueil sont assez similaires, j'entends au niveau du nombre de personnes. Le différentiel, en fait, se fait très souvent par rapport à la capacité technique d'accueil. La capacité à accueillir à la fois des semi-remorques et des tourbus en quantité. La capacité à accueillir des structures techniques. Alors, d'ores et déjà, on sait que des salles comme le Cube, mais pas que, c'est-à-dire que toutes les salles de France qui font la même taille que le Cube, par exemple à Aurillac, mais à Bourg-en-Bresse ou, je ne sais pas, Tours, voilà, par exemple, nous n'accueillerons pas certaines typologies de spectacles. C'est-à-dire que très clairement, ce que vous voyez à la U Arena, ce que vous voyez à l'Arena de Lille, bref, tout ce qui va atteindre des tailles de 15, 20, 30, 40, 50 ou 60 000 personnes, vous vous doutez bien que pour pouvoir proposer un spectacle à 30 ou 40 000 personnes, il faut forcément une taille de scène spécifique.
Oui.
Et surtout, ça veut dire que la scénographie de l'artiste est dimensionnée pour ça. Donc très clairement, demain, nous n'accueillerons pas Madonna, nous n'accueillerons pas Jay-Z, il n'y aura pas U2, nous n'aurons pas Police. En revanche, nous serons en capacité, pour des questions à la fois simples, des capacités techniques, oui, d'accueil, mais aussi parce que nous avons à cœur de renouer avec certaines choses, nous serons en capacité d'accueillir des artistes qui jusque-là ne s'arrêtaient pas à Troyes dans l'Aube.
Merci Frédéric Orzechowski d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. Je rappelle que vous êtes le directeur du Cube à Troyes, et pour plus de renseignements, j'imagine qu'on peut retrouver la programmation, les événements à venir du côté du Cube sur les réseaux sociaux et votre site internet.
Et sur notre site internet www.lecube-3.fr.
Merci Frédéric Orzechowski, à très bientôt.
À très bientôt, au revoir.
Il y aura aussi des événements sportifs à prévoir. En revanche, le Cube n'organisera plus de salons, même s'il se dit prêt à en accueillir. C'est sur ce témoignage que se referme le 18-19 en Champagne-Ardenne ce soir. Évidemment, on se retrouvera dès lundi 18h10 avec de nouvelles actualités. La semaine prochaine, on parlera largement de la semaine de la presse et des médias à l'école, cette semaine où les journalistes professionnels vont à la rencontre notamment de collégiens, de lycéens, mais aussi d'élèves en école primaire, pour leur expliquer le fonctionnement des médias, et puis aujourd'hui comment bien regarder les informations, comment éviter de tomber dans les fake news, dans les désinformations. Si tout cela vous intéresse, on fera aussi un petit peu de pédagogie à l'antenne lors de la semaine prochaine. On sera très ravis de vous retrouver. Dans quelques instants, c'est l'information nationale qui prend le relais, évidemment, et puis les programmes locaux sont de retour à 19h12, notamment sur RCF France-Ardenne. Vous entendrez la méditation comme tous les soirs du lundi au vendredi. On continue de vous accompagner tout tout au long de ce week-end. L'information revient dès 7h sur vos différentes rédactions locales. RCF Cœur de Champagne, RCF Reims-Ardennes. C'était Thierry Dely à la mise en onde ce vendredi soir. On vous remercie pour votre fidélité et on vous donne rendez-vous lundi 18h10 pour un nouveau magazine régional. Très bonne soirée, très bon week-end, toujours en compagnie des programmes de RCF.